Radio Foot International, Annie Gasnier.
De nous rejoindre dans Radio Foot International dans notre émission du jour quotidienne et qui vous le savez maintenant et bien peut-être vu aussi, vous pouvez nous suivre grâce au Facebook Live. Car nous allons vous raconter aujourd'hui, l'une des belles histoires de la CAN, celle des écureuils et des baréas. Les Béninois et les Malgaches ont été reçus comme des champions dans leur pays en rentrant d'Égypte, même s'ils se sont arrêtés en quart de finale. Que leur réserve l'avenir d'ailleurs à ces équipes? Que peuvent devenir des équipes après une si forte et si belle aventure? Nous essaierons de l'imaginer. Aliou Cissé et Jamel Belmadi, deux sélectionneurs, deux anciens capitaines de leur équipe nationale, deux anciens joueurs passés par le PSG, aujourd'hui face à face pour une finale inédite, destin croisé entre ces deux hommes qui ont grandi dans la même ville et qui deviennent des exemples. Une petite escapade en Italie, la Juventus de Turin entre-t-elle dans une nouvelle ère? Un an après l'arrivée de Cristiano Ronaldo et profitant d'une loi fiscale favorable, l'octuple champion d'Italie peaufine son effectif pour dominer l'Europe. Est-ce bien raisonnable? Nous en parlerons donc avec Patrick Juillard du site Foot 365 Afrique. Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être là Patrick Juillard. Nos amis de France 24 désormais permettent de reconnaître votre visage.
Voilà,
alors, il y a Facebook Live.
Je les en remercie, mais c'est RFI qui leur a donné l'idée.
Ah, bon, alors c'est mieux. À vos côtés, Naïm Moniol. Bonjour Naïm.
Salut Annie, salut à tous.
Naïm, un habitué de Radio Foot International. Shérif Guémour de SoFoot. Bonjour Shérif.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis, nous avons un Égyptien. Il n'a pas amené sa couronne de pharaon ni son sceptre, mais il est là. Frédéric Suto, bonjour.
Bonsoir, salut Annie.
Et merci de venir dans le studio de Radio Foot. Vous qui étiez sur le terrain, vous allez quand même nous en donner une petite idée de ce qui se passe là. Là-bas. Radio Foot, c'est parti.
Il prend quelques mètres d'élan, c'est Ibou Mama. Il s'élance, c'est parti. Et c'est le
moment.
Qualification du Bénin pour les quarts de finale. Historique, les écureuils. Incroyable, messieurs, incroyable. Le Bénin est qualifié pour les quarts de finale.
Oui, absolument.
À la fin de cette séance de tir au but.
Voilà Yannick Bolassier qui prend son élan et qui fait face à Melvin Adrien. Il s'élance, Bolassier. Il est au-dessus. Yannick Bolassier. Et il envoie Madagascar au 7ème ciel. Regardez-moi tous ces Malgaches qui courent dans tous les sens et qui vont voir leur gardien. Ils sont en quart de finale dans le grand 8 continental qui l'eût cru il y a encore quelques semaines. Oh, la fête du côté de Tadari un peu partout.
Madagascar en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
Ils sont arrivés discrètement à la CAN sous le sceau de petits de la compétition. Les écureuils qui revenaient de si loin, absents des quatre dernières éditions, alors que leur football vivait une profonde crise au pays, au Bénin. Et puis les baréas qui faisaient leur tout premier pas dans la compétition continentale. Et ces deux sélections ont provoqué un souffle de joie, de la ferveur au pays, fasciné par leurs exploits qui ont permis de disputer des quarts de finale inespérés. Alors malgré leur élimination à ces équipes, elles ont été fêtées lors de leur retour au pays, presque comme des champions, ces joueurs. À Cotonou, une foule énorme attendait donc tous les écureuils sur le parcours de leur autobus, aux couleurs évidemment de l'équipe nationale. Et c'était avant de les fêter au stade général Mathieu Kérékou. Ambiance au micro de notre correspondant sur place, Félix Pépé-Lipé.
Mais je suis chaud bouillant là. Je les adore. Non, ils nous ont surpris agréablement. Donc il faut leur faire du bien. On les accueille comme il faut. La caravane c'est jusqu'à demain, jusqu'à l'aube. Il n'y aura pas de nuit aujourd'hui. Après le stade on va en boîte. Dommage qu'on n'a pas pu voir vraiment les joueurs, parce que leur dispositif en place pour leur sécurité nous a empêché. Et même leur bus est teinté. Mais là on est là, on est chaud bouillant. Et on est dans la fête.
Bon, c'est bon, on a aimé. Les joueurs ils sont à féliciter. Donc ils nous ont rendu fiers. Donc ils ont fait quelque chose qu'on n'a jamais eu dans ce pays. On va travailler encore plus dans 2 ans. Si pas d'adieu au Cameroun, on ira en finale.
Nous sommes venus depuis Agoué pour venir supporter l'arrivée des écureuils. Nous sommes fiers d'être béninois. Nous sommes contents de ce qu'ils ont fait en Égypte et nous sommes revenus les supporter, les remercier et merci à tous les journalistes sportifs qui ont fait beaucoup pour notre pays.
Les journalistes sportifs, eh bien, il y a ceux de RFI, puis il y avait aussi vous, Frédéric Suto, vous les avez vus de près, les Béninois, ils étaient pas mal à Ismaïlia.
Oui, et comment, à Ismaïlia, effectivement, au bord du canal de Suez, cette équipe du Bénin qui a commencé timidement, en tout cas les trois matchs nuls en poule, hein, on parlait toujours de cette victoire que le Bénin attendait depuis sa première participation à la CAN en 2004, trois défaites, 2008, trois défaites, 2010, un nul, deux défaites, et on ne parlait que de cela en oubliant bah, qu'ils pouvaient déjà se qualifier pour les huitièmes, même avec trois matchs nuls, et c'est ce qu'ils ont fait les écureuils, et ensuite et bah, l'épopée était lancée, hein. Il y a eu la victoire au tir au but face au Maroc, ce quart de finale qu'ils auraient très bien pu gagner face au Sénégal, sans doute le meilleur match du Bénin dans cette Coupe d'Afrique des Nations, et effectivement on entendait les supporters, bien ce sont ces supporters-là hein, qui étaient à Ismaïlia, puis ensuite au Caire, il y avait 500, 600 supporters, on les entendait du début à la fin, la fanfare béninoise, et effectivement on a senti que derrière ben, c'était tout le pays qui poussait ce pays de 11 millions d'habitants seulement, derrière le Bénin de Michel Dussuyer. Hein.
Et qui les a fêtés au cours du week-end, et justement nous sommes en ligne avec Michel Dussuyer, le sélectionneur des écureuils. Bonjour Michel Dussuyer.
Oui, bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Merci d'être dans Radio Foot International aujourd'hui. Vous vous êtes remis de cette grande fête à Cotonou?
Oui, j'ai récupéré un peu. ça a été chaud parce que on a voyagé de bonne heure, quitté l'Égypte de bonne heure, et puis on a eu un peu de retard, on est arrivé tardivement, donc ça a duré jusqu'à la fin de la journée. Mais au final, c'est tellement de joie et tellement de bonheur qu'on oublie tout ça.
Alors Michel Dussuyer, on vous a suivi évidemment avant, pendant les éliminatoires et puis après et pendant toute la compétition. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui de faire partie eh bien, de ces équipes qui étaient parmi les meilleures de la CAN cette année et donc de faire partie des équipes qui ont disputé les quarts de finale?
Ben, une grande satisfaction parce que c'était un parcours que personne n'attendait. Donc pour nous, même si de notre côté on a toujours eu de l'ambition avant de participer à ce tournoi, ça reste quand même une surprise et une belle surprise pour tout le monde du football. Et on est très heureux de ça. Il y a des mots qui reviennent en permanence dans les bouches des Béninois. C'est de la fierté. On est vraiment très heureux de leur avoir procuré ce sentiment.
C'est vrai que la population était tellement heureuse de voir l'équipe passer comme ça les étapes avec finalement une certaine difficulté peut-être, mais aussi en tout cas ils étaient là, ils étaient au rendez-vous. Quelle était votre recette? Eh bien, Stéphane Cessaignon a un petit peu livré au micro d'Olivier Pron la manière dont vous les meniez.
On a la chance d'avoir un entraîneur qui est proche de nous, qui ne donne pas trop de la voix, je dirais, mais qui est rigoureux dans son travail, qui est aussi proche de nous, et ça nous permet de nous rassurer, nous les joueurs. Il est dans la même vision que nous, et ça c'est une chose importante pour un entraîneur qui arrive à avoir une certaine complicité avec les joueurs, et c'est ce qui nous apporte, c'est pour cela que nous sommes, comme il l'avait dit, prêts à aller à la guerre avec lui, parce qu'on sait qu'il est à 200% dans tout ce qu'il fait avec nous, et c'est ça, c'est vraiment important.
Ils sont prêts à aller à la guerre avec vous, tous ces hommes, Michel Dussuyer?
Oui, en tout cas peut-être pas à la guerre, mais sur un terrain de foot, oui, ils sont prêts. Et je pense que j'ai eu la chance de trouver en arrivant ici au Bénin un groupe très solidaire et puis très ambitieux avec un haut degré de motivation. C'est vrai qu'ils ont vécu des moments plutôt difficiles et ils avaient vraiment envie que l'horizon s'éclaircisse. Et une fois que la confiance s'est établie entre nous, ben on a commencé à se mettre au travail et puis à progresser à chaque étape pour arriver ben, finalement à avoir un bon degré de compétitivité dans cette compétition et arriver à obtenir les résultats que tout le monde espérait.
Michel Dussuyer, l'enthousiasme et surtout la complicité peut-être qu'il y a eu autour de vous dans cette équipe, est-ce que ça s'est fait le jour où vous qualifiez ce match finalement très symbolique avec le pays voisin qui est le match du Togo qui vous permet d'accéder à la CAN?
Non, la complicité elle s'est établie plus tôt dès la prise de contact et dès les premiers échanges. Notre premier match était un match difficile au Togo. Et on a réussi à ramener un point, donc après le climat de confiance s'établit et la confiance se renforce au fur et à mesure des matchs qu'on a eu à disputer. Je pense qu'il y a eu un match très important, c'est notre victoire contre l'Algérie. Parce que outre la confiance qu'elle a pu procurer aux joueurs, elle a vraiment aussi donné au public béninois l'envie d'être derrière nous, de nous soutenir, et ce qu'ils n'ont jamais essayé de faire durant toute cette année.
Frédéric Suto, une question pour vous, Michel Dussuyer.
Oui, Michel, oui. Bonsoir, bravo pour ce parcours. Bon, là, c'est la joie, la communion, la fierté, mais est-ce qu'il y a des regrets sur le quart de finale par rapport à ce match plus qu'abouti face au Sénégal, où en début de seconde période, on se souvient, il y a eu des occasions de votre côté, vous auriez très bien pu ouvrir le score dans ce quart de finale.
Oui, c'est vrai. Bon, après, on sait aussi que le Sénégal, c'est un gros morceau et que à tout moment, ils peuvent faire la différence parce qu'ils ont des joueurs de grand talent. Et si on regarde le but, c'est entre Mané et Idrissa Gueye que ça se joue. Il y a des joueurs qui sont capables de faire des différences. Mais j'ai pas de regrets fondamentalement parce qu'on a fait un match abouti. Comme vous l'avez dit, je pense que ça a été notre meilleur match parce que on a un peu mieux maîtrisé notre animation offensive, une meilleure maîtrise collective avec le ballon, quoi. Donc, c'était peut-être le match le plus abouti. Et au final, je dirais que la logique a été respectée. Donc, il n'y a pas de regret fondamental, même si c'est vrai qu'on a le sentiment de ne pas être passé loin encore des demi-finales.
Patrick Juillard.
Oui, bonsoir coach et félicitations pour ce très beau parcours. Vous allez pouvoir maintenant vous inscrire dans la durée au Bénin. Quels sont selon vous les moyens de pérenniser ce succès et d'en faire un succès qui dure sur plusieurs CAN?
Ben, je pense qu'avant tout, il faut qu'on garde toutes nos valeurs et toutes nos vertus morales. On sait qu'on n'a pas l'effectif que beaucoup d'autres nations majeures du football africain possèdent en termes d'individualité. Mais j'ai un groupe de qualité et avec un état d'esprit remarquable. Donc cet état d'esprit nous permet de compenser les différences techniques que l'on peut avoir avec certaines équipes. Maintenant, il s'agit de ne pas se prendre pour d'autres, de continuer à garder une vertu d'humilité. Et puis, avec les ingrédients qu'on met en place, avec de la générosité, de la solidarité et de l'organisation, on peut continuer à petit à petit à se rendre encore meilleur et continuer notre progression, stabiliser au moins le niveau auquel on est arrivé et puis essayer de se rendre encore meilleur.
Oui, bonsoir coach, bravo pour votre Coupe d'Afrique. Moi j'aimerais dans le prolongement de la question de Patrick vous dire, est-ce qu'aujourd'hui stabiliser votre niveau ou progresser comme vous venez de le dire, ça passe pas par un travail autour du championnat local, parce que vous avez une diaspora très étendue en Europe, au Maghreb, dans le Golfe, mais finalement peu de joueurs issus du championnat local. Est-ce que aujourd'hui ce parcours va vous donner les moyens, est-ce que la fédération va tendre un peu à travailler sur le championnat local, sur l'éclosion des jeunes?
Bah, il y a déjà eu depuis l'arrivée de la nouvelle fédération un championnat qui a repris son cours normalement. Donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle parce que pour pérenniser évidemment ce championnat, pour que les joueurs locaux puissent avoir les moyens de s'exprimer et de progresser à travers la compétition. Maintenant je suis avec beaucoup d'attention ce championnat. J'essaye évidemment de dénicher des garçons qui ont un bon potentiel parce que le niveau du championnat n'est pas encore au niveau des exigences du niveau international évidemment. Donc, mais il s'agit pour moi de regarder les joueurs qui ont du potentiel et puis après j'hésite pas si je sens qu'il y a des joueurs de ce calibre-là à les appeler en équipe A. De toute façon, le travail est permanent en sélection. Il s'agit d'explorer toutes les pistes qui existent, c'est-à-dire d'une part au plan local évidemment, et puis au plan international avec des joueurs issus de la diaspora.
En tout cas, vous avez entendu hein, Michel Dussuyer, les supporters, et ils vous attendent en finale en 2021 au Cameroun.
Bon, on va mettre ça sur le compte de la liesse.
Merci beaucoup en tout cas Michel Dussuyer d'avoir accepté d'être en direct avec nous dans Radio Foot International aujourd'hui.
C'est Merci à vous.
À très bientôt. Merci. Et bonne continuation. On vous suit.
Merci beaucoup. Merci.
Frédéric, est-ce que, selon vous aussi, vous qui les avez suivis de près, est-ce que le fait d'être dans une ville un tout petit peu plus petite que le Caire, ça a aussi créé peut-être une ambiance autour des écureuils, peut-être pouvait mettre plus en confiance une équipe qui revenait.
C'est possible, effectivement.
Hein, parce qu'on pense, on va parler après de Madagascar.
C'était paisible, oui, Madagascar qui est arrivé au Caire et qui a eu plus de mal. Oui, c'était assez paisible à Ismaïlia. Ils avaient leurs petites habitudes, l'entraînement à 17h, on prend le car, 10 minutes, pas plus. Hein, c'est pas comme au Caire où on est dans les embouteillages. Parfois, il faut 1h30 pour arriver au terrain d'entraînement. Effectivement, ils étaient dans leur cocon, entre guillemets, les écureuils. Ça leur a bien réussi, effectivement, à cultiver cet esprit famille, un petit peu, avec les supporters qui arrivaient. Il y en avait un peu plus chaque jour, hein, parce qu'ils étaient là.
Et qu'est-ce que c'est à l'entraînement et tout, qui pouvait les côtoyer?
Alors, à l'entraînement, pas trop, mais à l'hôtel, voilà, quand il y avait des points presse organisés, là, on essayait de voir un petit peu ce qui se passe, de demander des autographes, des selfies. Il y avait beaucoup de monde autour des écureuils. Hein.
Bon, ben, en tout cas, on suivra, évidemment, l'avenir de cette équipe. C'est vrai que Michel Dussuyer revenait, hein, Patrick Juillard avec la Guinée, puisqu'il avait commencé là en Afrique, en tout cas avec une sélection.
Il avait aussi fait un retour en Guinée d'ailleurs. Un homme qui est habitué des retours.
de revenir. Mais là, c'est un joli retour.
Il nous a très bien expliqué dans ses dernières réponses un petit peu comment il travaille. C'est quelqu'un de très minutieux, qui s'efforce de connaître tous les joueurs qu'il peut avoir à sa disposition et qui va pour chacun essayer de voir s'il peut apporter quelque chose. Et c'est comme ça qu'avant la Coupe d'Afrique, il a déniché ce germano-béninois que personne ne connaissait, la Sebio Soukou, qui a fait toute la CAN comme milieu offensif droit et qui s'est avéré être un apport intéressant à l'équipe. Joueur assez percutant, dynamique. Il arrive, je pense, à bien bonifier, à optimiser le potentiel dont il dispose. Je me rappelle de ce qui m'avait frappé à la CAN 2010, quand il était déjà à la tête du Bénin. Il avait emmené dans les 23 un joueur d'1m53 qui s'appelait Arnaud Seca, qui était une sorte de mini Valbuena, de tout petit dribbleur comme ça, qui apportait une touche d'imprévu et de folie à son équipe. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment par petites touches essayer d'améliorer le potentiel qu'il a. Il n'a eu qu'une fois une vraie grosse équipe africaine, c'était la Côte d'Ivoire, mais je trouve qu'on ne lui a pas laissé le temps de travailler dans la durée. On l'a viré
un contexte de transition
sans ménagement parce qu'il était sorti après un tour à la CAN 2017 et on aurait peut-être dû lui laisser du temps.
Naïm.
Et j'ajouterais que ça serait une erreur de rester sur l'image qu'on a vue contre le Maroc d'une équipe extrêmement défensive, très repliée, qui joue pas bien, parce que tout à l'heure Frédéric parlait du match contre le Sénégal. Moi j'ai surtout été impressionné et séduit sur le match du Ghana, où ils ont mené au score, où ils ont vraiment été bons, ils avaient réussi. Si le Ghana avait été réduit à 10 parce que John Boy avait été exclu, on avait vu une vraie belle équipe, très surprenante, les voir aussi haut, aussi bien jouer, moi en tout cas ça m'avait surpris. Donc faut pas rester sur cette image, c'est une équipe qui... elle a les joueurs pour bien jouer. Évidemment, vous êtes un groupe qui est inférieur à ce que vous pouvez voir dans les grosses nations, les équipes maghrébines, ainsi de suite. Mais il y a matière à développer du jeu avec cette équipe.
Le match contre le Maroc arrivé après les 3 matchs de poule. Il y avait eu 2 jours de récupération seulement. Il avait fallu bouger effectivement d'Ismaïlia au Caire. Et là, on sentait qu'ils étaient vraiment limite. Et ils étaient beaucoup mieux, même dans la fraîcheur physique pour le quart de finale.
Tu perds pas en poule contre le Cameroun, tu perds pas en poule contre le Ghana. T'élimines le Maroc et tu tombes avec les honneurs contre le Sénégal. Ça peut pas être du hasard. C'est pas possible.
Ouais,
et en plus, rappelons-le, comme Michel Dussuyer l'a dit lui-même, ils avaient battu l'Algérie à Cotonou.
Pendant les éliminatoires.
Et à la lumière de ce que fait aujourd'hui l'Algérie, on se rend compte à quel point c'est une équipe sérieuse, le Bénin.
Mmh. Voilà pour ce qui est donc du Bénin et de ses premiers bilans qu'on tire après cette CAN, puisque maintenant il ne reste plus que 4 équipes du côté de l'Égypte. Alors, évidemment, il y a eu les écureuils du Bénin et puis il y a eu ces Baréas, ces zébus de Madagascar. Et sur la grande île, cela a semé une joie immense, car jamais les Malgaches, évidemment, n'avaient vécu la CAN de cette manière, avec des joueurs, une équipe à eux, hein, qui portaient les couleurs nationales. Leur retour fut un grand moment de joie. Un retour triomphal réservé aux zébus, auquel assistait notre correspondante sur place, Laetitia Bezin. Écoutez le reportage.
C'est une foule survoltée qui a inondé l'enceinte de l'aéroport et les rues aux alentours. Le bus débarré à peine à se frayer un passage. Erignan, 22 ans, a pu apercevoir plusieurs joueurs.
Je suis très très heureux. Je n'ai jamais été heureux comme aujourd'hui. Je ne sais plus quoi dire ou quoi faire. Ils ont joué avec leur cœur et ils ont donné un beau spectacle. Ce que je vois aujourd'hui, c'est magnifique.
À quelques mètres titre, c'est l'euphorie qui gagne Kant, étudiante.
Je suis très contente parce que c'est la première fois que je les vois en vrai. Ils sont sympas et cool. Ils nous ont fait coucou et on a vu sur leur visage qu'ils ont compris que les Malgaches les aiment.
Sifflets, klaxons, chants et cris de joie font vibrer la capitale. Les routes sont paralysées par une marée humaine. Le cortège des Baréas poursuit son chemin dans de nombreux quartiers de la ville, entraînant derrière lui des milliers de supporters. Ludovic, 49 ans.
Je suis vraiment très heureux parce que ça crée une très grande unité chez les Malgaches. Ce qu'on fait les Baréas, ça restera dans l'histoire.
Un cortège qui a terminé son périple dans le quartier de Mahamas, en plein centre d'Antananarivo. Les joueurs ont à leur tour dit merci aux milliers de Malgaches qui les attendaient. Melvin Adrien est le gardien de but de l'équipe.
C'est un grand moment. Je les remercie vraiment pour l'accueil qu'on a tout donné pour cette compétition.
Prochaine étape pour les Baréas, continuer de briller dans les compétitions internationales. Laetitia Bedan, Antananarivo, RFI.
Voilà, on sait comment encourager les Baréas désormais. On sait qu'il faut dire Alefa Baréa.
Comme et ça. Pour...
en plus, oui, quand ils marquent des buts, hein, ils nous font les ébus, bien sûr, les joueurs. Et ceux qui nous regardent en Facebook Live eh ben, peuvent voir ces joueurs aller à l'entraînement, notamment. C'était au stade d'Alexandrie où ils ont séjourné pratiquement l'essentiel de la compétition. Les images de Dominique Fian. Alors, incroyable parcours que celui des Baréas. Naïm Moniol, cette équipe de Madagascar, alors pour elle, tout était nouveau, mais alors tout à l'heure Frédéric évoquait le Bénin qui est à la recherche toujours d'une première victoire. Eux c'est incroyable parce qu'il y a une victoire dans les matchs de poule et en plus c'est contre le Nigeria, les Super Eagles.
Qui même s'il avait fait tourner a quand même une équipe phare.
Il fait beaucoup tourner.
Beaucoup tourner, oui, mais ça reste quand même une équipe phare du continent africain. Puis c'est surtout une victoire avec du jeu. On avait vu des belles choses, même contre la Guinée, mais c'est une équipe qui a tordu le cou à une idée, bien entendu, c'est on n'a pas les joueurs pour faire du jeu, qu'on entend souvent dans des sélections supérieures ou même en club, on n'a pas les joueurs pour faire du jeu. Bah, Nicolas Dupuis, Madagascar, ils ont montré que même si on n'avait pas des joueurs de très haut niveau, même si on avait des mecs qui jouaient dans les championnats exotiques ou amateurs, on était capable de bien jouer au foot. Et Madagascar, sur cette CAN, en plus d'avoir fait un parcours historique, il a bien joué au foot. Il a vraiment montré de très belles choses, techniquement, tactiquement, beaucoup de vitesse, beaucoup d'enchaînement du football. Un peu à la SoFoot, du football de rue, comme on voit actuellement dans SoFoot.
Du football africain,
c'est exactement ça.
À la une du magazine.
Et c'est ça qui a été frais avec Madagascar, c'est qu'en plus d'avoir réussi un parcours, d'avoir fédéré, de créer de l'émotion, c'est historique, c'est machin, c'est un conte de fées, on a vu du jeu, et c'est quand même... Toutes les équipes n'ont pas produit du jeu sur cette CAN et des équipes bien supérieures normalement.
Chérif Guémour, c'est un football qui vous a plu ?
Ouais, bien sûr, je l'avais dit la semaine dernière, je le réitère, parce que je suis allé vérifier, je disais que ça me faisait penser au football africain d'avant la mondialisation, des années 80, 90, celui qui nous a fait rêver avec l'Algérie, le Sénégal, le Nigeria. J'ai vérifié, le gros de l'équipe, ils sont bien nés à Madagascar, la majorité de l'effectif, et les joueurs emblématiques qui, moi, m'avaient personnellement beaucoup plu, à savoir Amada et Andrea, je sais.
Carolus, le
Carolus,
petit.
Voilà.
Oui.
Bah, il joue en Afrique, il joue en Algérie et en Tunisie.
Maintenant,
donc,
il joue en Arabie Saoudite, mais il a très longtemps joué à l'USM Alger, Carolus.
On est d'accord. Voilà, il y a cet esprit qu'on a un peu perdu, c'est-à-dire un jeu direct, offensif, qui prend des risques, qui ne calcule pas. J'avais parlé un peu des naïvetés défensives, on les a vues contre la Tunisie, malheureusement. Mais oui, c'est cette équipe m'a beaucoup plu et... J'ai lu une interview très intéressante d'un des cadres de la fédération. Il y a un programme de formation. Et évidemment, c'est un pays pauvre. On ne va pas en attendre monts et merveilles. Mais il y a une impulsion. Et ils ont écrit le nom de Madagascar dans l'histoire du foot africain. Et pour en venir particulièrement, là, je vais essayer un peu synthétique par rapport au thème que vous avez choisi, qui est très bien vu sur justement la joie des Béninois, des Guinéens, enfin de Madagascar et tout ça. Une bonne fois pour toutes, il faut bien comprendre que l'esprit de la CAN, c'est l'esprit d'un continent jeune et de nations neuves. Donc voilà, le rendez-vous, c'est tous les deux ans. C'est la fête du football, c'est la fête du football africain. Les nations, les populations, pour eux, c'est important. Une nation peut briller tous les deux ans. C'est éphémère, ce n'est que du foot. Mais on rappelle que c'est un continent jeune et des pays neufs. Et pour tous ceux qui attendent que la CAN passe à un rythme de tous les quatre ans... Je leur dis, soyez patients, parce que c'est pas pour maintenant. C'est l'esprit de la CAN, c'est ça. C'est la fête du football tous les deux ans, d'un continent jeune et de pays neufs.
Oui.
Pardon, moi, je voudrais réagir, c'est la réussite de la CAN à 24 équipes, là, tout ce qu'on est en train de dire. Bien sûr, on n'a pas eu que des bons matchs, mais je trouve qu'au début de la compétition, notamment, toutes les équipes étaient prêtes. La première journée,
il y avait
cet état de fraîcheur et cette envie de jouer les petites équipes, entre guillemets, à l'image de Madagascar, même s'ils sont allés beaucoup plus loin, à l'image des Béninois contre le Ghana. On est parti sans réfléchir, en se disant, on ne va pas commencer à calculer. Et on a vu des petites équipes, oui, nous proposer des belles choses, même le Burundi, même la Tanzanie, la Namibie, on a vu des très belles choses hein, sur le terrain. Mais
c'est vrai, Patrick. En plus, c'est pour une région du continent qui n'est presque jamais représentée en phase finale, c'est l'océan Indien. Ouais. Je crois que depuis l'île Maurice en 1974, aucune équipe de cette région n'avait joué la CAN. Hein. Et les Comores, par exemple, n'ont toujours pas joué la CAN. C'est pourtant une île où on pratique beaucoup le foot.
Donc elle a surtout bien failli et elle aurait bien voulu. Mais c'est vrai qu'il y avait une équipe qui se faisait remarquer.
Moi, j'ai trouvé que effectivement tout ce qui a été dit était juste. C'est une équipe qui jouait au foot, qui essayait d'imposer son jeu. Donc ça, c'est tout à son honneur. Après, c'est un jeu basé sur une énorme débauche d'énergie, des courses incessantes. Donc forcément, à un moment, ce ne sont pas des joueurs habitués au très haut niveau, à la répétition des efforts intenses comme ça, ils l'ont payé.
On l'a vu en quart de finale contre la Tunisie.
Le défi sera de durer. Là, par exemple, les joueurs locaux de Madagascar vont jouer les jeux des îles de l'océan Indien. Ils joueront contre l'île Maurice, contre des équipes comme ça, contre les Comores ou la Réunion. Donc ça va être un moyen de se jauger, peut-être de trouver des joueurs locaux susceptibles de venir concurrencer ce groupe. Le travail devra être pérennisé parce que Madagascar n'a pas les structures déjà
pour
que ça suive. Donc c'est quand même sur les épaules de Nicolas Dupuis, mais moi, je voudrais d'abord, avant tout, on a souligné les mérites du coach, mais il faut féliciter les joueurs, parce que quand vous voyez où ils jouent toute l'année et le niveau qu'ils ont montré dans cette CAN, c'est extraordinaire, c'est fantastique.
Et le danger vient de là pour Madagascar, si on veut que ça se pérennise et que ça continue, c'est que les joueurs ne se prennent pas pour ce qu'ils sont pas. On sait qu'il y a des joueurs qui sont dans des championnats très exotiques, qui vont être approchés par des agents plus ou moins louches, avec des propositions plus ou moins intéressantes, plus ou moins sérieuses. Des joueurs de clubs amateurs qui vont avoir des propositions aussi pour franchir les étapes. Attention de pas se cramer, attention de pas se brûler les ailes, de prendre un petit peu le chou. Ce qui est normal quand on réussit un truc historique, comme ils viennent de le faire, c'est humain, c'est naturel, hein, c'est pas une critique. Faut vraiment que là va falloir que la fédération, que Dupuis, que le staff encadre bien les joueurs, leur parle, que les plus vieux comme Morel, comme les autres, explique bien aux plus jeunes que ça ne fait que commencer, c'est pas l'aboutissement, c'est le point de départ, faut que ce soit une base et pas une arrivée cette CAN.
Ouais, il faut pas que ce soit un feu de paille. Quoi.
Exactement. Voilà.
Parce que malheureusement, on a le contre-exemple du Cap-Vert qui nous avait émerveillé
2013.
Il y a quelques années.
2013, en fait, 2013, Cap-Vert, ouais. En Afrique du Sud.
Ils sont revenus en 2015, mais ils étaient sortis au premier tour, sans être nuls d'ailleurs, mais ensuite ça n'a pas été vraiment pérennisé.
Voilà, c'est le contre-exemple.
Mais c'est vrai que
imaginons que Madagascar ne se qualifie pas pour la CAN 2021, bah ça ferait flop. Après, ce qu'ils nous ont montré là, forcément, on attend quelque chose dans la continuité.
Voilà pour ce qui est donc des belles histoires de cette CAN, à savoir celle des écureuils et celle des Baréas. On a vibré pour eux, on a vibré avec eux durant cette CAN. Et d'ailleurs, on parlait de l'importance ou de l'impact que ça a sur le continent. Et il y a le quotidien La Croix aujourd'hui de France, donc qui titrait sur la fête africaine avec une photo en une des supporters africains.
Toutes les diasporas ont fêté, mais pas qu'en France, mais dans tout le.
Je pense que c'est très rare qu'un quotidien français en plus généraliste fasse une une sur la Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que le quotidien L'Équipe ne l'a pas
voilà,
encore fait.
On se demandait, effectivement, vous avez raison de signaler cet aspect.
On se demandait si le passage de la CAN de janvier-février à l'été, au mois de juin, juillet, ou en Europe, où il y a toutes les diasporas, c'est l'été, les vacances, ça rendait cette CAN plus visible. Finalement, on s'y intéresse. D'habitude, il y a l'Euro, il y a la Coupe du Monde, là, il y a la CAN.
Il y a aussi le diffuseur qui fait mieux son travail que les précédents, c'est pas pour lancer des fleurs à Beansport, mais le bon état des pelouses qui donne un spectacle plus agréable. Et puis, je pense que
les stades sont vides.
Voyez ce que je veux dire, vous êtes gamin, dans la cour récré, on parle plus de la CAN fin juin quand c'est la fin des cours quand tout le monde a froid.
La CAN est mieux produite, la CAN est mieux filmée. Ouais. Si vous regardez les matchs, c'est beaucoup mieux filmé qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, moi, je trouve même que c'est mieux filmé, par exemple, que la Copa América. Je trouve, à titre personnel. Il y avait beaucoup de matchs filmés de très haut dans cette Copa América brésilienne. Là, la CAN, je trouve que le produit est mieux valorisé.
Il y a la moitié de l'Afrique.
Et ça, ça aide aussi à mobiliser, ça aide.
La moitié de l'Afrique dispute cette compétition, donc une fois de plus, c'est ça l'esprit de la CAN.
Elle est
et toujours... ça ne peut être que pour tous les deux ans. Pour l'instant, ça changera peut-être, mais pour l'instant, c'est tous les deux ans. Il faut l'accepter, il faut le comprendre.
Ah ça, mais j'ai jamais été contre, moi. Bien au contraire.
Tu connais la pression du football européen.
Bah oui, bien sûr. Ouais.
Si elle est mieux filmée, elle est toujours aussi bien commentée sur la radio, n'est-ce pas, Frédéric?
Ça, c'était déjà top qualité depuis longtemps.
Et c'est plutôt pas mal commenté.
Allez, on continue sur cette CAN 2019. On va évoquer la finale, car nous sommes à J-3. Et oui, demain, il y aura le match pour la troisième place, mais il y aura surtout cette finale vendredi soir, dans trois jours exactement. Et les sélections du Sénégal et de l'Algérie se retrouveront donc pour disputer ce si joli trophée qu'est la Coupe d'Afrique des Nations. Face à face, surtout deux hommes, deux sélectionneurs que tout séparera ce jour-là, mais que tout rapproche pourtant dans leur vie comme dans leur parcours. On a eu envie de s'arrêter sur ces deux hommes, parce que les sélectionneurs ont aussi leur rôle. Tout à l'heure, en évoquant les sélections, on évoquait évidemment Nicolas Dupuis de Madagascar et Michel Dussuyer que nous avons entendu. Là, on a donc d'un côté Aliou Cissé et de l'autre Djamel Belmadi. Ce qui est amusant pour ce qui est des coïncidences, eh bien, c'est que ils ont un jour d'intervalle. Ils sont tous les deux nés en mars 1976, l'un le 24, le 25. Ils ne sont pas nés au même endroit puisque Djamel Belmadi est né en France à Champigny sur Marne, même si sa famille venait d'Algérie, tout près de Mostaganem, et Aliou Cissé est lui né dans le sud du Sénégal, à Ziguinchor. Mais ils ont grandi ensemble et ils se connaissaient. C'était donc à Champigny. Cissé y est arrivé vers l'âge de 9 ans. Ils ont été tous les deux capitaines de leur sélection nationale une fois qu'ils ont été sélectionnés. C'était notamment à la CAN en 2004. Et puis, ils sont tous les deux passés par la Ligue 1. Ils ont beaucoup joué en Ligue 1. Alors, coïncidence, et on voit leurs photos ici sur le Facebook Live, ils sont tous les deux passés par le Paris Saint-Germain. En fait, Belmadi y a surtout été formé. Belmadi, il a été formé, il a joué à peine...
Il a dû faire un ou deux matchs, mais non, il a surtout éclaté à Marseille, lui.
À Marseille, effectivement, alors que Aliou Cissé y a joué pendant trois saisons, il a fait 62 matchs avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est plus qu'une coïncidence, Nabil, Naïm?
C'est pas une coïncidence que des joueurs de cette génération qui étaient réputés pour leur jeu et leur sérieux deviennent des sélectionneurs... connus et reconnus pour leur travail et leur talent, après qu'ils aient...
Au même moment, hein, tous les deux, 43 ans.
Après, c'est la même génération, mais on a beaucoup parlé cette saison en Ligue des Champions du renouvellement de génération d'entraîneurs avec les jeunes qui arrivaient. C'est un peu pareil pour les sélections nationales, hein. C'est la même génération. Ils sont
c'est Tourelle, quoi.
Voilà.
La génération Tourelle.
C'est un peu la génération... Ouais, je crois que c'est un peu plus vieux que Tourelle, quand même, les deux. Sont
43 ans.
Tourelle, Klopp, c'est à peu près cette génération. Après, c'est bien, c'est des garçons qui ont fait leurs armes en France, qui ont évolué dans les championnats étrangers et qui sont revenus servir le pays, chacun dans des statuts différents. Belmadi, je trouvais une reconnaissance supérieure, même s'il est depuis moins longtemps sélectionneur de l'Algérie, il a une reconnaissance supérieure que celle d'Aliou Cissé, qui est beaucoup critiqué, alors qu'il fait un bilan plus qu'honorable. Allez-y.
Justement, on va écouter Djamel Belmadi parler de son camarade, de parler d'Aliou Cissé. C'est au micro de Paul Meyers, l'un de nos envoyés spéciaux du côté du Caire.
I think it's a great message that we send to our...
Je pense que c'est un très bon message adressé à tous les responsables des fédérations africaines. C'est génial. Je connais Aliou Cissé depuis longtemps. On vient de la même région, en France. On avait l'habitude de jouer l'un contre l'autre. La seule différence entre lui et moi, c'est que lui est à la tête de son équipe depuis 4 ans. Il fait du très bon travail. Cette finale, entre le Sénégal et l'Algérie, et contre mon ami, c'est génial. Espérons que ça pourra faire réfléchir ceux qui prennent les décisions et qu'ils accordent leur confiance à de jeunes entraîneurs.
Patrick Juillard, c'est deux entraîneurs donc qui se connaissent extrêmement bien, qui ont des parcours similaires et qui deviennent des exemples.
Oui, qui deviennent des exemples. Alors j'ai parlé sur Twitter et je me suis un peu pris le bec avec certains suiveurs ce matin parce que je m'inscrivais en faux contre l'idée que ce sont des entraîneurs locaux, parce que certes, ce sont des
anciens. Vous voulez effectivement aborder ce thème.
Internationaux qui ont porté les couleurs de leur
nation,
de leur pays, mais ce sont surtout le produit d'expériences internationales. C'est-à-dire qu'ils ont joué effectivement beaucoup en France. Ils ont été formés comme joueurs en France. Ils ont aussi joué en Angleterre. Faut pas l'oublier puisque Djamel Belmadi Mohamedi a notamment joué à Manchester City avant que ce soit les Émirats Arabes Unis qui reprennent le club. Aliou Cissé a joué à Birmingham, si je me trompe pas. Portsmouth également. Donc une expérience internationale. Ils sont confrontés à d'autres footballs, à d'autres visions du monde et du jeu. Jamel Belmadi a eu ses lettres de noblesse, ses premières lettres de noblesse d'entraîneur dans le golf, au Qatar. Champion du Qatar avec les Rouya, où il avait notamment Youssef M'Sakni sous ses ordres, ensuite sélectionneur du Qatar. Donc ce sont vraiment des hommes de la synthèse et avec cette expérience-là.
Et qui ont disputé plusieurs cannes, donc qui ont aussi cette expérience de l'Afrique.
Et ils sont dans des générations intermédiaires où ils peuvent à la fois comprendre des dirigeants qui peuvent avoir la cinquantaine ou la soixantaine, mais aussi des joueurs de 20 ans. Et ça, je trouve que c'est très bien. Et je pense qu'ils ouvrent, ils montrent la voie, ils montrent l'exemple. Et ils devraient donner des idées à d'autres fédérations. La Tunisie, par exemple, pourrait confier l'équipe nationale à quelqu'un comme Mehdi Nafti, qui était un des anciens joueurs de la CAN 2004, qui a entamé une carrière d'entraîneur. Sabri Lamouchi, il est déjà passé par la Côte d'Ivoire, mais. Et puis il a pas porté les couleurs de la Tunisie comme joueur, mais c'est aussi dans cette génération et ce style d'entraîneur, des gens qui ont beaucoup bourlingué dans le monde. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est
la synthèse.
C'est un peu des citoyens du monde, en fait, ces deux entraîneurs-là.
Mais c'est un peu le cas de tous les sélectionneurs, les grands sélectionneurs.
Pas tous, regardez,
Didier Deschamps, bon, il est passé par la Juve. C'était pas l'Angleterre. Est-ce qu'aujourd'hui, le grand entraîneur, grand sélectionneur, c'est pas justement, celui qui allait voir au-delà de son propre pays ce qu'on pouvait faire de mieux, qui s'est frotté à tous les championnats.
De toute façon, les joueurs sont internationaux.
Mais ça reste quand même un Sénégalais qui entraîne le Sénégal. Et un Algérien qui entraîne l'Algérie, et ça, c'était pas si fréquent.
Il a la nationalité de son équipe, mais c'est un pur binational, Belmadi. C'est pas du tout les locaux, c'est Rabah Madjer, c'est Moussa Saïb, mais Belmadi, c'est plus un binational. Mais surtout, pour rester sur du jeu à proprement parler, ce qui est très bien avec ces sélectionneurs-là, c'est qu'ils sont dans cette logique de ne rien imposer. Parce que souvent, quand vous écoutez les joueurs africains et les critiques à l'encontre des sélectionneurs étrangers, c'est qu'ils arrivent et qu'ils font jouer les joueurs africains contre nature. Les pays africains, ce sont des joueurs de foot. Ce sont pas des types qu'on formate comme on peut formater des gamins de 15 ans en Europe, un contrôle, une passe, tu reviens te replier et surtout tu joues pas au ballon. C'est pas comme ça que ça marche. Eux, ils ont surtout amené à cette équipe la liberté de jeu, la liberté de jouer, parce qu'ils sont intelligents et qu'ils ont compris qu'avec les joueurs qu'ils avaient à disposition, ça ne servait à rien d'essayer de jouer contre nature, d'avoir des espèces de blocs européens, ce qu'on a vu pas mal sur la Copa América, hein, mine de rien. Mm-hmm. Tout à l'heure, on parlait de la Copa América.
Fait longtemps qu'elle a perdu son style.
Belmadi et Cissé, ils ont aussi cette réussite, chacun à leur échelle, d'avoir permis à leurs joueurs de jouer avec leur qualité, ce qui est devenu assez rare dans le foot moderne, surtout au très haut niveau.
Je trouve effectivement qu'ils ont concilié quand même une rigueur, parce que ce sont pas des coachs qui font n'importe quoi, leurs mises en place sont assez claires, enfin on comprend comment l'équipe joue, mais aussi avec l'expression des individualités, mais en revanche, contrairement à leurs prédécesseurs, parfois qui avaient pas vraiment de plan de jeu et qui se disaient, bon, de toute façon, en Algérie, on a des joueurs de talent, donc, ça finira par passer, hein. George Likens, il se disait, j'ai Riyad Mahrez, j'ai Sofia Nani, donc on gagnera des matchs. Ben non, ça marche pas comme ça. Il faut quand même avoir un plan de jeu, une idée claire. Et ça, c'est ce qu'ont apporté ces deux entraîneurs-là.
Chérif Guémour.
Il y a le charisme, il y a l'autorité. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est vachement important aussi. On parle des joueurs africains. La dernière génération de joueurs africains, ils ont des hauts salaires, ils jouent dans des grands clubs. Ils sont aussi familiers des médias, ils ont une certaine image. Il y en a qui ont été ingérables dans certaines sélections. Moi, Belmadi, quand il arrive, à la limite, il se retrouve justement avec des Mahrez, meilleurs joueurs du championnat d'Angleterre. Certains ont déjà un palmarès, que ce soit les deux équipes. Hein, je parle du Sénégal et de l'Algérie. Va falloir s'imposer, va falloir que le message passe. Moi, je parle juste du charisme et de l'autorité. C'est pas évident, c'était pas gagné d'avance. Et finalement, ils se sont imposés. Et on a vu de quelle façon Belmadi s'est imposé. Il a écarté certains joueurs, il y en a qui sont sur le banc. Et la plus grande réussite, à mon sens, c'est le banc de l'équipe d'Algérie. C'est-à-dire, il y a des joueurs comme Alige, par exemple, ou Slimani. Dès qu'ils rentrent, ils donnent tout. Ça veut dire que les gars, ils ont compris. C'est-à-dire que le gars, il a repris le groupe en main. Mais même, je vois l'humilité d'un Mahrez en tant que capitaine. Voilà, le mec, il peut se la jouer. Le mec, il a déjà tout gagné.
son statut, entre guillemets, de star international dépasse celui de Belmadi. Sauf que Belmadi l'a remis au niveau des autres. Et on voit le collectif que ça
a. Non, mais il a mis le drapeau au-dessus des soldats, quoi, si on peut dire.
C'est qu'à une époque, Riyad Mahrez, qui était quand même un joueur extrêmement décevant en sélection par rapport à ce qu'il faisait en club, aujourd'hui, c'est devenu le capitaine. Et en plus, il est performant. Mm-hmm. Et ça aussi, ça tranche, ouais. C'est que ce soit Mahrez ou que ce soit Mané, on a enfin des stars internationales. Et quand je dis stars internationales, c'est au-delà de l'Afrique, qui tiennent leur rang. Même s'il y a deux pénaux ratés pour Mané, il fait quand même une CAN très correcte. Riyad Mahrez, pour moi, c'est quasiment le meilleur joueur de la CAN avec Igalo et Bennacer.
Bennacer!
Ah oui, non, mais très très bon joueur, Bennacer.
Ça sera un autre débat.
Ce sera un autre débat. Donc voilà, ça aussi, c'est aussi à mettre au crédit des sélectionneurs, ce qu'ils ont réussi à, entre guillemets, c'est pas très beau, rentabiliser leur star.
Oui, et ce qu'on disait hier dans Radio Foot aussi, c'était aussi cette synthèse intéressante, hein, entre des, comme vous le disiez, des joueurs, puis sélectionneurs ou entraîneurs qui ont connu un peu le monde, et puis qui connaissent bien la culture sur place, et qui font, sont respectés à la tête de leurs équipes.
Aller chercher des joueurs qui jouent localement, quand même, ça c'est formidable. Oui. Belaïli, Espérance de Tunis, Bounedja qui joue au Qatar, Ben Lamri qui joue en Arabie Saoudite, des joueurs qui apportent.
Mais il a cassé le moule, Belmadi. Voilà, c'était
alors
sénateurs.
Que les sélectionneurs, même les sélectionneurs locaux, parfois ont un complexe et se disent vaut mieux aller chercher les Européens, on n'est pas trop sûr de nous.
Bon, bah ils serviront peut-être d'exemple, en tout cas.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est que comme tout n'est pas parfait, il y a encore une marge de progression pour les deux équipes.
Et ça sera peut-être le jour de la finale, qui sait.
On l'espère.
Et puis après,
jusqu'à un vainqueur, il n'y en aura qu'un. Il y aura qu'un vainqueur.
Non, puis après, la prochaine Coupe du Monde qui arrive.
Si je peux me permettre de nuancer ce que tu dis, effectivement, au sens propre, il n'y aura qu'un vainqueur. Moi, je pense quand même que ces deux équipes-là auront gagné quelque chose au sortir de la CAN.
Forcément, mais imaginez les Sénégalais qui ne l'ont jamais gagné.
L'Algérie depuis 90, alors qu'il y a quelques mois, ça paraissait impossible. On est bien d'accord.
Voir la Tunisie qui décrocherait la troisième place, ça serait pas.
Ça sera très intéressant à suivre. Donc les prochains jours, ne nous abandonnez pas, suivez-nous à la radio et sur Facebook Live. Allez, un petit détour par l'Italie. La Juve, et oui, la Juve prépare sa saison nouvelle en attirant de nouveaux joueurs dans l'attente de la concrétisation du contrat peut-être déjà signé selon certaines informations de off, bien sûr, avec le jeune et très prometteur défenseur néerlandais Matthijs de Ligt, le capitaine à 19 ans de l'Ajax Amsterdam qu'on a tellement vu et admiré cette saison. Et bien l'équipe a déjà accueilli, alors l'année dernière évidemment il y avait Cristiano Ronaldo, cette année il y a au moins eu Adrien Rabiot, hier Aaron Ramsey et évidemment la houlette désormais d'un nouvel entraîneur, le napolitain Maurizio Sarri. Alors la vieille dame semble avoir retrouvé la lumière pour faire briller son effectif sous les feux de la Ligue des Champions. Car pour ce qui est du championnat national, elle a remporté les 8 titres les 8 dernières années. Donc peut-être que le calcio, même si ça reste une chose importante, n'est peut-être plus la priorité par rapport à l'Europe. C'est surtout peut-être, et ça vous devez le savoir et on va l'expliquer, c'est une nouvelle loi, une nouvelle disposition fiscale qui peut rendre finalement le football italien, le calcio et la Juve plus attrayantes, Chérif Guémour.
Donc c'est la fameuse loi donc qui exonère d'une partie du salaire.
50%.
Dites loi Ronaldo non, parce
c'est
que bon,
jusqu'à c'est... de 70 à 90% d'exonération fiscale pour les impatriés, ils appellent ça.
Voilà. Pour les autres, c'est 50, c'est la moitié.
Ouais, voilà. Quand on reste 2 ans, il y a plein de conditions, effectivement. Mais c'est énorme par rapport, je suppose, au fisc espagnol qui a un peu persécuté les stars.
Disons que c'est une loi à double tranchant dans le sens où elle permet justement l'acquisition de joueurs étrangers et notamment des stars. Parce que ça a commencé avec Ronaldo quand il est arrivé l'été dernier, à l'été 2018. Mais d'un autre côté, il y a un grand, grand débat dans le football italien parce que, en fait, il y a beaucoup d'observateurs qui disent que le fait d'avoir, fait venir beaucoup de joueurs étrangers, c'est ça qui explique, entre autres, l'élimination de l'Italie. Parce que les nouveaux
pour
la Coupe du Monde 2018, chose qui n'avait pas arrivé depuis 58.
Si je peux me permettre, on dit aussi que le problème du foot italien, c'est qu'il n'y a pas de jeunes, alors que tous les jeunes gagnent les équipes, les compétitions de jeunes ou sont en finale. Donc pour moi, c'est un débat qui est aussi très hypocrite.
Ah non, mais je ne juge pas.
Non, je sais, Chérif, mais c'est pas à toi que je le reproche.
Je pose un constat. C'est est-ce que parce que c'est une très très longue
toujours
histoire.
La faute des étrangers en Italie.
C'est toujours
la faute des étrangers, c'est les binationaux, c'est les machins. Platini l'a expliqué 50 fois quand il perdait, c'était lui et Boniac.
En plus, c'est très vieux. Alors, il faut savoir que
comme l'Italie n'avait pas fait la Coupe du Monde 58, l'Italie avait fermé ses frontières aux joueurs étrangers. Ils les ont ouverts bien après, dans les années 70, parce que bon, ils ont vu que c'était pas la solution. Donc, ce genre de loi, ça va servir. Maintenant, pour en venir à la loi, en effet, elle va permettre de faire venir des joueurs étrangers en Italie. Mais déjà, moi, pour moi, le problème, il est pas là. Le problème, c'est les problèmes de stade, c'est les problèmes de public, c'est les problèmes de grands capitaines d'industrie, des grands présidents qu'on a connus autrefois, qui ne sont pas là.
Mais il y a les équipes de Jean-Luc Tchini. Là, on voulait parler de la Juve et de cet avantage qui fait qu'on a l'impression, enfin, par exemple, peut-être que De Ligt, s'il n'y avait pas ce contexte, Aaron Ramsey n'aurait peut-être pas signé.
Ça, effectivement, tout ce que dit Chérif est juste globalement, mais la Juve est une exception. C'est un club qui est quand même bien organisé, c'est un club qui est propriétaire de son stade, c'est un club qui gère bien ses mercatos, puisque là, ils ont quand même renforcé leur milieu avec deux joueurs de classe internationale, que sont Rabiot et Ramsey, tous les deux qui arrivent libres. Ils n'ont qu'à payer des primes à la signature, donc c'est très bien joué ça. C'est très bien joué, beaucoup de gens se disputaient ces joueurs-là.
Rabiot aurait pu aller ailleurs.
Et le pouvoir d'attraction, il vient du fait que la Juve a fait deux fois finaliste de la Ligue des Champions en cinq ans, que la Juve a recruté l'an dernier Cristiano Ronaldo. Donc ces joueurs-là se disent, on a quand même des chances d'aller loin en Ligue des Champions.
La garantie, c'est une demi-finale.
Un spécialiste, sinon le meilleur spécialiste sur le marché de cette épreuve, Cristiano Ronaldo, et un club qui a un vrai savoir-faire dans cette épreuve, qui a l'habitude, qui sait gérer les matchs aller-retour. La Juve, donc, pourquoi ne pas signer là-bas? On a des bonnes conditions de travail, on a un beau public, un beau stade. Que demande le peuple?
Mais Naïm, justement, alors c'est peut-être aussi pas suffisant, parce qu'on a vu avec Cristiano Ronaldo l'année dernière, ils sont pas allés beaucoup plus loin.
Ils font un quart de finale.
Là, ils ont repris Buffon. C'est pas non plus pour véritablement pour cela. Par contre, les nouveaux entrants que sont Ramsey, sûrement De Ligt. Là, on essaye de monter une machine de guerre.
Ils musclent sérieusement leur jeu.
Ouais. Voilà.
La Juve, de toute façon, la Juve quand elle est redescendue en Ligue 2, c'était pas son problème de niveau, c'est des pratiques. C'est le statut de la Juve n'a jamais changé. C'est ses pratiques, son modèle économique a évolué au moment où ils sont remontés en Serie A. Ça a toujours été un très grand club. Ce qui aujourd'hui fausse un peu la donne, c'est que le championnat italien s'est appauvri et que les deux équipes de Milan ne sont plus au niveau. Il y a plus de concurrence en Italie. C'est aussi ça qui fait que la Juve est fait cavalier seul. Mais en Europe, c'est une valeur sûre. C'est un club qui gagne de l'argent, qui sait jouer au football, qui a des résultats en Italie, des résultats en Europe. Et qui est très très bien géré.
Qui a un très bon modèle économique.
La Juve n'est jamais, elle est retombée en série B pour ses pratiques, absolument pas pour son statut. Alors que les deux équipes de Milan, qui elles ne sont pas redescendues, en termes de niveau de jeu, c'est quand même la base du truc, en termes de niveau de jeu et de pouvoir d'attraction, eux se sont bien cassés la figure.
Mais il y a le statut, il y a tout ce qu'on dit, mais la Juve n'a plus gagné la Ligue des Champions depuis 1996. Voilà. Et c'est aussi pour ça que il y a eu plusieurs finales à Paris. Et ça se joue à rien. Mais en attendant, ils ont besoin quand même de la regagner. Là, ça commence à faire beaucoup. Ça fait au Bayern qui a attendu pendant longtemps à un moment donné.
Le souci, c'est pas la Juve. Le souci, c'est le foot italien qui n'est pas au niveau du foot espagnol.
La Juve. Depuis 15 ans, Real, Barça, on la gagne tous les 3-4 ans, quoi qu'il arrive.
Le niveau de la Serie A s'étant appauvri, ça a permis à l'essor de la Liga, l'essor de la Première Ligue de les remplacer. Mais c'est pas uniquement le problème de la Juve. Avoir un championnat aussi peu équilibré et une équipe qui fait deux finales de Ligue des Champions en 5 ans et qui fait une garantie de quart ou de demi-finale. C'est quart de finale cette année. C'est quand même extraordinaire.
Oui. Ouais. C'est quand même extraordinaire. Non, mais la Juve fait partie encore de la nomenclature, je dirais, élevée du football européen. Il y a aucun doute là-dessus.
Elle est clairement dans le top 5 européen.
Mais on a l'impression que la vieille dame vieillisse bien. Il faudrait qu'elle la regagne une fois, quand même.
Alors, le truc, c'est pour en venir maintenant au transfert proprement dit, donc si on sort un peu du côté un peu législatif, la loi et tout, c'est un ajustement au niveau de la classe d'âge. On fait venir des jeunes un peu, ils sont un peu plus jeunes, Ramsey, je crois que c'est 27-28, Rabiot 25, et De Ligt, il va sur ses 20 ans.
19, ouais.
C'est juste ce qu'il leur a manqué cette année, c'est-à-dire qu'il leur a monté un peu de gaz, il leur a manqué de la fraîcheur. Autant la première mi-temps, là, on va parler du match retour contre l'Ajax. La première mi-temps, il n'y a pas de problème, ils dominent. Deuxième mi-temps, le souffle a manqué, tout simplement parce que c'est une équipe quand même qui est quand même pas mal composée de trentenaires. Et année après année, ça commence à se voir.
Ça déforme,
on va juste ajuster au niveau de l'âge et les transferts qu'ils ont faits. A priori, c'est les bons.
Un trentenaire qui revient d'ailleurs, c'est Higuaín aussi, que Sarri promène dans ses différents clubs. C'est la fin de ce Radio Foot International déjà, messieurs. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission, Alice Ménard qui était à la réalisation, et puis merci à Swell Kedir et merci aussi à Pierre qui nous ont aidés pour les moyens vidéo. On vous dit à demain.